Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Julien. Julien a une particularité, il a raconté sa paternité à travers un livre intitulé Daddy Gaga et des chroniques pleines d'humour, d'autodérision et totalement assumé parent indigne. On retrace ensemble son parcours vers sa paternité et l'origine de cette envie de raconter sa vie de daron à l'écrit, avant de prendre un peu de recul et de parler d'éducation et de fin du monde aussi, parce que pourquoi pas. Une conversation qu'on a enregistrée il y a un mois et quelques et qui prend d'autant plus de sens maintenant que le coronavirus est venu paralyser la France. Cette semaine, j'ai besoin de vous. Oui, j'ai besoin de vous. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez l'aider de plusieurs façons. Tout d'abord, en lui mettant une bonne note et un chouette commentaire sur l'appli de podcast qui s'appelle Apple Podcast. Ça l'aidera à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Ensuite, abonnez-vous à ce podcast, ainsi qu'à mon autre podcast Histoire de succès. Vous recevrez directement les épisodes dans votre téléphone. Tous les liens sont dans les notes de ce podcast. Enfin, si vous avez aimé cet épisode en particulier ou le podcast en général, merci d'avance de l'envoyer à un ou une amie, de le partager sur vos réseaux sociaux et plus globalement d'en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître Histoire de Daron. De mon côté, je vous donne rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Merci d'avance pour tous vos abonnements à ce podcast, pour vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie de Julien. On est avec Julien Chavanne. Salut Julien.
Salut Fabrice.
Ça va?
Ouais, très bien.
Julien, alors comment on pourrait te définir? Tu es l'auteur de ce livre qui est sorti il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle Daddy Gaga.
C'est ça, c'est sorti en octobre 2019, Daddy Gaga.
Et tu es aussi rédacteur en chef du magazine Néon.
C'est ça,
voilà. Que vous avez peut-être pu voir dans les librairies.
J'espère que beaucoup de gens l'ont vu et l'ont lu. Voilà, Néon qui existe depuis bientôt 8 ans. Et en fait, les deux aventures sont liées puisque Daddy Gaga, donc, ça a d'abord été des chroniques sur le site de Néon, enfin, en vrai, dans une newsletter qu'on a essayé de lancer il y a quelques années déjà, qui s'appelait Néon Family, et le sous-titre c'était Tétine et gueule de bois, c'est pas si grave d'être parent. Et l'idée était déjà d'un peu de se marrer avec la parentalité, de se déculpabiliser, de faire s'envoler un peu nos complexes autour de cette question-là. Et moi, je venais, ma fille devait avoir 2 ans ou 3 ans quand on a tenté cette newsletter qui a été un flop total par ailleurs. Mais j'ai eu envie, voilà, de raconter mes aventures de daron, et j'ai écrit une première chronique qui était sur quand tu dois habiller ton enfant le matin. Je pense que c'est une aventure épique qui arrive à tous les parents, ouais. Et qui te reste qu'il est 8h10, que l'enfant est encore au slip au milieu du salon et que en gros ça va être vraiment très très short pour ne pas subir le jugement de l'éducation nationale et de la directrice de l'école quand t'arrives 20 minutes après la fermeture de la porte. Enfin voilà, je pense que c'est aussi un truc que beaucoup de parents connaissent. Et voilà, c'est le premier truc qui m'est arrivé, qui m'est venu en tête, avec l'envie de raconter ça, parce que je trouvais ça très marrant, en fait, la parentalité, et en même temps très dur. Donc j'avais une double envie, c'était de me marrer et de me soulager un peu aussi, voilà.
Ok. Est-ce qu'on peut reparler de ton envie d'enfant?
Oui,
qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu décides de faire des enfants? Ça te vient de loin?
Je crois pas l'avoir vraiment décidé. Je crois pas l'avoir consciemment décidé en tous les cas.
Okay.
Il y a une autre personne qui l'a un peu plus décidé que moi.
Okay.
qui est ma compagne. Cela dit,
attends, ça veut dire quoi? Tu l'as pas décidé?
Non, mais on s'est dit à un moment donné, je le raconte d'ailleurs dans le livre, il y a des épisodes qui sont un peu flashback et je raconte le moment où je découvre que je vais devenir un daron, un Daddy Gaga donc, et où ma compagne me montre le test de grossesse que je prends pour un stylo au début.
Oui.
Donc évidemment je suis vraiment très très loin du fait, quoi, si tu veux. Et effectivement on en parlait depuis quelques mois, mais pas depuis si longtemps que ça, et c'était en fait quelque chose d'assez concret pour elle dans son esprit, évidemment. Enfin bon, voilà, comme d'habitude, hein, les femmes sont un peu plus éveillées à la chose que les mecs, je pense, et en même temps c'est assez difficile pour nous de nous faire une projection de tout ça. Et donc même si j'étais prêt. J'étais prêt dans l'absolu, je pense. C'est ce que je raconte dans cette chronique. Et quand ça me tombe dessus, bah ça me tombe dessus, quoi. Voilà, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus concret. Et voilà. Cela dit, je me suis toujours dit qu'un jour j'aurais des enfants. C'était pas du tout quelque chose qui m'angoissait ou que j'avais pas envie de réaliser. Au contraire. Mais bon, je suis pas forcément quelqu'un. Je pense comme beaucoup de personnes et peut-être comme beaucoup de futurs papas, j'avais quelques angoisses concernant cette étape de ma vie et du coup voilà, je me suis assez peu projeté et laissé un peu porter, et c'était pas plus mal.
C'était quoi tes angoisses? Ah, on est là pour
Oui, bah non, mais je pense que c'est très classique, c'est de pas être capable. Ouais. Tout simplement. De pas être capable, de pas je pense que ça touche beaucoup de gens et c'est ça me paraît très normal d'ailleurs de peut-être déjà pas être capable biologiquement et puis ouais. Parce que ça touche de plus en plus de gens autour de nous et puis ensuite de pas arriver à gérer cette fonction et cette responsabilité qui est quand même dans un premier temps assez écrasante, intimidante, stressante et tout ça, voilà.
C'est un vrai truc, j'ai l'impression, parce que moi aussi j'avais cette idée de peut-être en fait que je serais stérile et que j'y arriverais pas. Et depuis, je pense tout ado quoi, tu vois, il y a un moment donné où je sais pas, j'avais cette sensation de me dire, bah peut-être en fait que j'y arriverais pas. Et comment tu l'analyses toi avec le recul là ?
Je sais pas, moi je me suis pas dit j'y arriverais pas. Parce que je crois pas que j'ai placé ça comme un objectif.
Okay.
Mais en revanche, je pense que y a une forte injonction quand même à la parentalité qui touche évidemment d'abord les femmes, mais quand même aussi un petit peu les mecs. Et puis plus on s'investit dans cette fonction-là, et c'est quand même ce qui est en train de se produire, et c'est tant mieux, plus on se met de la pression. Et cette pression, je pense qu'elle nous touche davantage une fois qu'on devient papa, mais aussi un peu avant. Et je pense qu'on se demande peut-être plus qu'avant si on va être capable, voilà, de remplir cette fonction qu'on conscientise quand même malgré tout plus que les générations de darons précédentes. Donc je pense que c'était plus c'est-à-dire est-ce que je vais me réaliser en tant qu'individu, donc me réaliser en tant que père. Et je pense que c'est sans doute assez dur pour les femmes qui ont envie d'avoir un enfant, de pas y parvenir. Et cette angoisse doit être assez forte. Et je pense que ça peut devenir aussi pas évident pour les mecs aujourd'hui. Voilà.
T'as entamé, si je me trompe pas, donc cette Daddy Gaga, alors que ta fille avait déjà 2 ans.
Oui, c'est ça.
C'est venu un peu tard, entre guillemets. Comment t'as vécu, toi, la grossesse? T'avais pas déjà cette envie de venir raconter des trucs?
Non, pas du tout.
Okay.
Pas du tout. C'est venu vraiment plus tard. Déjà pendant la grossesse, je pense que j'étais à l'ouest, clairement.
Ça veut dire quoi?
Non, mais je pense que j'ai rien compris, quoi.
Okay.
J'ai rien compris mais encore une fois, c'est difficile. Alors j'ai essayé d'être au plus près de ma compagne et de l'accompagner du mieux que je pouvais. Très vite, je me suis senti un peu oppressé par tous les bouquins sur la parentalité, etc. Et par tous les conseils qu'on mangeait dans la tête. Je pense que c'est un truc que les futurs parents vivent tous. Et en même temps, c'est hyper important quand même d'écouter ceux qui sont passés par là avant, et il y a de très bons conseils et plein de très très bonnes méthodes. Je dis pas du tout qu'il faut fermer les écoutilles, mais en tout cas, moi, ça m'a un peu oppressé, et j'ai essayé d'accompagner du mieux que je pouvais, mais voilà, tant que c'est pas concret pour un mec, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, je savais pas du tout ce qui allait m'arriver en vrai. Et j'ai essayé de me projeter, de me faire une image mentale de ce que ça pouvait être, en écoutant aussi ce qu'on me racontait. Et en réalité, tu le sais bien, c'est impossible. Et quand ça y est, c'est concret, et que t'as l'enfant entre tes bras et qu'il te hurle dessus dès les premières secondes de sa vie, voilà, là, ça devient beaucoup plus réel.
Comment s'est passée la grossesse? T'as l'impression d'être passé à côté de quelque chose, justement, quand tu dis que j'étais à l'ouest avec le recul?
Je sais pas, bah, il y a forcément quelque chose d'un peu frustrant. T'essayes de comprendre et puis tu comprends pas. Donc voilà, après, faut l'accepter, et je l'ai accepté, ça a pas été, et la grossesse a été, elle s'est bien passée dans l'ensemble. Voilà, il n'y a pas eu de, y a pas eu de soucis. Je pense qu'avec ma compagne, on est pas forcément des gens méga sereins dans la vie. Faut être honnête. Donc il y a eu des petites angoisses inhérentes à cette période qui est quand même une période
agitée
d'interrogation. Voilà, avec des échos où tout d'un coup on te dit que je sais pas le bébé fait pas la bonne taille. Enfin voilà, ce genre de truc un peu classique. Donc voilà, des petits aléas de ce type là. Qu'il a fallu gérer, du diabète de grossesse, des choses comme ça, enfin ouais. Voilà, où j'ai essayé, voilà, évidemment, d'être le plus présent possible. Je voulais, de toute façon, dans mon esprit, il était déjà tout à fait clair que je voulais être voilà, là, présent, au taquet, et compenser au maximum les efforts que fournissait ma femme. Et ça, c'était déjà le cas pendant la grossesse.
Tu disais que tu comprenais pas ce qui était en train de se passer. Je pense que c'est vraiment le cas de plein de futurs papas et que ils sont pas tous aussi. Alors, je peux comprendre en fait que à un moment donné, quand tu piges pas un truc, tu te dises OK, en fait, c'est pas mon domaine et je vais laisser tomber. Et en fait, assez rapidement, tu décroches de ce fait-là et que tu te dises bah OK, c'est pas à moi. Qu'est-ce que t'as? Alors déjà, j'ai une question, c'est qu'est-ce que tu comprenais pas? Et la deuxième, c'est comment t'as fait pour rester malgré tout, même si tu comprenais pas, motivé à rester.
Bah, ce que je comprenais pas, c'est ce qui se passait dans le corps de ma compagne. Mmh. Voilà, c'est la grossesse. Tu peux pas, enfin, même si t'as un maximum d'empathie et que t'essayes de te projeter, en réalité, tu peux jamais comprendre. Et il faut quand même l'accepter, ce que vivent les femmes pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Voilà, on ne peut pas le ressentir.
C'est chelou d'ailleurs de se dire que jamais on pourra vivre ça, non, en tant que mec.
Ouais. Ouais, mais il y a plein de choses que vivent les femmes qu'on ne ressentira pas, et bon voilà, ça, il faut l'accepter et en même temps essayer d'être voilà, j'ai essayé d'être le plus à l'écoute possible de. Mais bon, on communiquait très bien sur tout ça quand même, et elle m'a transmis les choses, et du coup, je me suis pas senti mis de côté du tout. J'ai complètement participé avec elle quand même à cette aventure-là, mais évidemment plutôt en soutien, en backup, que comme l'acteur principal. De toute façon, on a un apport qui est quand même très très relativement modéré quand même dans cette aventure-là. Et je me suis senti mais vraiment méga inutile pendant l'accouchement, qui a été un petit peu complexe. Et là, je pense que ça a été vraiment le pic de mon incompréhension des événements. Je pense que hormonalement, je devais être bien en vrac aussi, moi, de mon côté. Après, je pense que j'ai pas bien compris non plus ce qui m'arrivait pendant au moins 6 mois.
Ah ouais, putain.
Ouais, facile. Facile. Et puis petit à petit, voilà, on commence à prendre conscience des choses, on s'installe dans ce rôle-là. L'enfant apporte beaucoup à ce niveau-là aussi, il te renseigne, il te donne des réponses. Les choses se calment, la tempête s'apaise. Petit à petit, on finit par être tous très contents de ce qui nous arrive, quoi.
Je pense que t'es le premier daron qui me dit clairement, alors je pense pas que tu sois le premier, mais que, en tout cas, le dire aussi clairement que les 6 premiers mois, t'as pas pigé ce qui se passait. Et je le comprends, hein, vraiment, voilà, c'est une période très, pareil, je pense que c'est une période très charnière, en fait, notamment dans la vie d'une famille, dans la vie d'un couple. Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu dis que t'as pas compris ce qui s'est passé? C'était ton rôle à toi, c'est ça, en particulier?
Oui, bien sûr, oui, c'est avant tout mon rôle à moi, oui, évidemment. Évidemment. Et c'est marrant que tu me dises ça parce que beaucoup de mes potes à qui j'en parlais à cette époque-là, parce que j'avais pas spécialement de pudeur et j'avais pas de difficulté à en parler, me disaient mais c'est fou comment t'en parles. Déjà ça fait pas envie, excuse-nous. Et puis on entend pas beaucoup ça, et je pense que c'est pas grave de le dire et de le formuler. Je pense que pour beaucoup de mères, et on en parle beaucoup en ce moment et c'est tant mieux. Voilà, avec toutes les discussions sur le postpartum, le baby blues, c'est pas la même chose évidemment, mais voilà, qui touche d'ailleurs aussi les mecs, hein, on le sait, le baby blues précisément.
Tu parles du postpartum, j'en profite pour placer qu'il y a un hashtag qui a circulé énormément là ces dernières semaines sur Twitter. Je vous mettrai un lien dans les notes, comme ça vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble, quoi.
Oui, je pense qu'il y a une libération de la parole. Évidemment, on est dans une ère, dans une époque de libération de la parole, donc on parle beaucoup plus de la réalité de la maternité, et je pense plus globalement de la parentalité. Et donc je pense que c'est pas une mauvaise chose que les mecs aussi. Évidemment, toute proportion gardée et sans faire de comparaison avec ce que vivent les mamans, parce que évidemment c'est ce que j'entends aussi quand je parle de ma propre expérience. Ça n'a rien de comparable avec ce que vivent les mères. Évidemment, le corps est totalement chamboulé, c'est difficile de s'en remettre. Parfois, il y a des accouchements qui sont extrêmement durs, et ça prend des mois voire des années pour que le corps de la femme voilà, retrouve son identité d'avant grossesse, et parfois d'ailleurs c'est ça n'arrive jamais. Mais cela dit, encore une fois, de la même manière que ce qu'on disait avant, plus le père s'investit et plus il s'implique et plus il a envie de bien faire, plus forcément il se met la pression et déjà plus il fait de choses évidemment, et plus il est confronté forcément à des difficultés que peut-être il y a 2-3 générations seules les mamans vivaient. Donc moi je voulais être parfait tout de suite, et ça a évidemment été une grosse erreur de jugement, puisque j'étais parfaitement incapable dans un premier temps, et c'est normal. On a eu un accouchement que je raconte aussi dans le livre, qui a pas été cataclysmique, mais pour te le raconter un peu rapidement, quand notre fille est née, on nous l'a enlevée très rapidement parce que son taux d'oxygénation était très bas, et elle a été très vite mise en couveuse et avec voilà de l'oxygène dans le nez, voilà. Et c'était juste après l'accouchement, ça, donc on n'a pas eu du tout le petit moment d'euphorie et de joie de l'accueillir avec nous. C'était en pleine nuit, un 23 décembre, et toute la nuit a été complètement ubuesque. Je pense qu'on a très mal choisi la maternité, que je citerai pas ici, mais ils nous ont pas rassurés, ils ont pas communiqué, ils avaient pas les équipements, maternité de niveau 1, je sais plus trop quelle est la classification, c'est un peu loin de moi maintenant. Mais bref, elle a été mise en couveuse. Évidemment, bah moi, c'est première incompréhension, si tu veux. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Comme il me renseignait pas, j'étais hyper inquiet. Quand on te parle de taux d'oxygénation du sang, tu te demandes si elle est en détresse respiratoire, si son cerveau est bien alimenté. Enfin, tu vois, tu te demandes très vite s'il va y avoir des conséquences. Évidemment, t'es de toute façon dans un moment de pure fragilité où déjà tu comprends rien, quoi. Ma compagne était pas au contact de son enfant, donc elle était pas dans la même pièce du tout, donc elle était super inquiète de son côté. Les choses s'étaient pas passées forcément très très bien pour elle. Enfin bref, il a fallu qu'ils utilisent les forceps. Ça a été un peu violent. Là-dessus, t'as toute ta famille qui revient, qui était partie hyper euphorique, qui revient. Tout le monde commence à être inquiet. Mon beau-père fait un malaise. Enfin, le truc est un peu apocalyptique.
Wow. Oui, oui.
Et à, si tu veux, à 1h, 2h du matin, l'obstétricien qui s'était barré, qui nous avait laissé seuls avec les sages-femmes, revient parce que les sages-femmes disent bon, ça va pas. On sait pas ce qui se passe, ça va pas avec le bébé. Et lui revient et dit, au bout d'une heure à être resté là sans rien faire, parce qu'en gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enlevaient les tuyaux pour oxygéner ma fille quand le taux d'oxygénation était bien remonté, et on voyait à chaque fois le taux d'oxygénation rebaisser. Et après, ils remettaient les tuyaux et rebelote. Donc, une super angoisse, tu vois, à chaque fois. Et à 2h du matin, le mec dit « Bon ben, je suis plus compétent, j'appelle le SAMU pédiatrique, tu vois. » Et donc, il y a le SAMU pédiatrique qui déboule. Pareil, ils sont assez nuls, pas rassurants. Et puis, ils finissent par embarquer ma fille dans le lit avec bouteille d'oxygène et tout. Ils entrent dans la salle d'accouchement où il y a encore ma compagne à ce moment-là, en disant « On va dire au revoir à maman, tu vois. » Et à ce moment-là, on ne sait pas où elle va. Ils sont pas capables de nous donner une maternité parce que tout est full. C'est le 23 décembre. Il y a plein. Et en plus, voilà, le personnel hospitalier médical est pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui sont pas là. Et au moment où ils embarquent ma fille dans le camion du SAMU, je leur dis, moi je veux être avec vous. Je veux monter avec vous dans le camion. Et ils me disent cette phrase incroyable qui est dans le livre. Non, on préfère que vous soyez pas avec nous parce que si ça se passe mal, on préfère que vous soyez pas là. Et ils me disent, si tu veux, 2 minutes avant de partir, bon, on va à l'hôpital Saint-Joseph, qui est à l'autre bout de Paris, je sais pas où c'est, je suis paumé, voilà. Et moi, à ce moment-là, je dois prendre ma caisse, traverser Paris, en pleine nuit, et essayer de retrouver ma fille dans un service de néonat à l'hôpital Saint-Joseph. Finalement, quand j'arrive là-bas, je tombe sur, voilà, l'hôpital public français dans toute sa splendeur et toute sa grâce, donc je tombe sur une femme médecin qui dirige ce service de néonatalité, et d'ailleurs, je spécial dédicace au passage et merci à eux, parce que dès qu'on est arrivé là-bas, tout s'est simplifié. Elle a juste avalé un peu de liquide amniotique à la naissance, rien de grave. Ça arrive très souvent.
C'est des trucs qui arrivent, oui.
Voilà, ça arrive très souvent. En fait, on aurait pu juste nous renseigner et nous rassurer un tout petit peu, quoi. Et une fois qu'on a été à Saint-Joseph, tout s'est très très bien passé. Mais voilà, ça pour dire qu'il y a eu cette première nuit d'angoisse où je pense que j'ai pris vraiment 10 piges d'un coup et où je me suis dit « Waouh, bah la paternité, ça commence quand même assez fort. » Et tout ça, finalement, était vraiment plutôt lié à l'encadrement que à la situation qui en elle-même n'était pas dramatique. Et je pense qu'il y a plein d'autres histoires d'accouchement beaucoup plus difficiles que la nôtre. Toujours est-il que moi, ça m'a mis dans un stress fort et que je pense que les 6 premiers mois ont été un peu frappés du sceau de cette première nuit pendant laquelle je me suis demandé si notre vie n'était pas en train de basculer tout simplement et si les choses allaient si bien se passer que ça. Et puis je pense que notre fille a aussi été un peu stressée de cette arrivée un peu mouvementée dans notre vie.
Et donc,
bon, excuse-moi pour ce grand, laïus.
C'est très intéressant parce que pour le coup, ça donne aussi sans doute le là de,
ouais,
de
ce que tu vas donner un peu le ton
de ce que tu vas produire par la suite, qui est peut-être en fait on peut pas en faire un truc dramatique et qu'on peut peut-être se marrer aussi, je pense.
Oui, bien sûr, oui, évidemment. Et je veux dire, 10 jours plus tard, on était à la maison avec ma fille qui était en pleine forme et qui va très très bien aujourd'hui. Et on forme une super famille et on est très heureux avec elle. Voilà, ça a juste été un départ un peu chaotique. Derrière, elle pleurait beaucoup parce qu'elle avait des coliques, des choses comme ça. Et puis, donc c'était quand même assez intense. Et puis après, je pense que c'est juste purement psychologique, c'est-à-dire que les choses se passaient bien, mais moi dans ma tête j'ai eu un peu de mal à appréhender ce rôle-là, à comprendre ce que je devais faire et à comprendre surtout que j'étais pas censé être tout de suite un papa parfait, mm-hmm. et maîtriser parfaitement les gestes. Et d'ailleurs je pense qu'on n'est jamais, il y a pas de papa parfait et papa ça s'apprend jour le jour, quotidiennement.
Si quelqu'un a la recette, qui l'envoie, la publie. C'est en ce cas.
Et c'est pour ça que chacune des chroniques finit par bravo, vous êtes un papa parfait, alors qu'avant ça raconte plutôt toutes les galères que par lesquelles tu passes. Et évidemment que c'est pas un mantra, il faut pas essayer de devenir un papa parfait, pas du tout, il faut essayer de devenir le père qu'on doit être. Et encore une fois, ma compagne et ma fille m'ont donné les clés qui ont fait qu'au bout de quelques mois, je me suis senti super bien dans ce rôle-là et très heureux et très épanoui.
Et tu t'es toi-même aussi auto-rassuré au fur et à mesure, c'est quoi les clés qui t'ont permis de pouvoir te détendre un peu ?
Prendre un peu de recul. Tout simplement apprendre, trouver des réflexes, trouver des rituels, trouver des rendez-vous avec ma fille et avec ma compagne. On a eu très vite un réflexe de survie quand même qui a été très bien édicté par ma compagne qui m'a dit écoute, ça sert à rien de se faire chier à deux, donc là sors, va faire un tour, va boire un coup et tu reviens après et moi je ferai pareil derrière. Donc ça c'est le seul petit conseil que je donne, c'est comme le dit très bien ma compagne, ça sert à rien de se faire chier à deux. Il y a des moments pour être à trois avec l'enfant, c'est super, mais de temps en temps, prendre un peu de temps pour soi, je pense que c'est hyper essentiel, hyper important, et ça vaut pour toute la suite. Donc voilà, tout ça m'a permis petit à petit. Et puis finalement, l'humour, déjà, assez tôt en fait, dans notre couple et dans notre trio. Rire du fait de pas arriver à faire un biberon parfaitement, mais parce que c'est une opération quasiment scientifique, et que quand t'as un bébé qui te hurle dans les oreilles juste à côté... c'est effectivement comme si tu lançais une fusée sur Mars et t'as de grandes chances de rater quoi. Voilà, ta première fusée elle va pas être
mal dosée. Quel est le nombre de doses qu'il faut mettre?
Voilà. Et t'oublies tout le temps alors que tu le fais plusieurs fois par jour, mais t'oublies tout le temps parce que ton cerveau de toute façon il a décroché, t'es un jeune papa ou une jeune maman et voilà, c'est fini, il y a une partie de ton cerveau qui fonctionne un petit peu moins bien, t'es épuisé et donc c'est normal de pas y arriver très bien. Et puis surtout c'est super drôle, une fois qu'on prend un peu de recul sur soi, c'est hyper marrant. Et on a commencé à se marrer le jour où on a appelé notre fille Adolphe, parce que on trouvait qu'elle se comportait comme un petit dictateur. Et voilà, on s'est regardé avec ma compagne et on s'est dit voilà, c'est ça, on est entre les mains d'un petit dictateur. Et on a commencé à se marrer, à prendre du recul avec ça, quoi. Et évidemment, l'idée n'était pas du tout de se moquer d'elle, même si un bébé, ça fait des choses quand même hyper marrantes, mais de se moquer de nous, de rigoler de nous et de notre situation. Et une fois qu'on a eu ça, qu'on a trouvé ce code-là, ce langage-là, et en plus, je pense qu'en grandissant, notre fille a un peu participé à ça, parce qu'elle est super drôle, évidemment, comme tous les enfants, et qu'on a pu développer un humour à nous, et que ça m'a fait du bien, moi, pour prendre du recul.
Qu'est-ce qui fait que tu te lances dans ces chroniques? Alors, donc, ta fille a 2 ans, c'est ça, à ce moment-là?
Oui, ma fille, elle a commencé l'école du coup, elle doit avoir 3 ans. Elle doit avoir 3 ans et je pense que c'est le même moteur, si tu veux, c'est-à-dire que l'humour m'a apporté pour prendre du recul et je pense que dans ma tête, j'en riais avec ma compagne, j'en riais avec mes potes, avec ma famille et puis avec d'autres parents et finalement ces chroniques, c'est un peu je vis une situation avec mon enfant et dans ma tête je me raconte un peu d'autres choses et comme si je plaquais le regard de l'adulte que j'étais avant sur la situation d'un jeune papa. Et en fait évidemment il y a plein de décalages qui sont super drôles à mettre en scène.
C'est très marrant que tu dises l'adulte que j'étais avant.
Ouais.
tu n'es plus la même personne.
Je suis plus tout à fait la même personne. Néanmoins, cet adulte-là existe encore un peu.
au fond
de moi-même. Et dans certains moments que je prends pour moi. Mais oui, c'est quand même un chamboulement quand c'est le premier enfant. C'est quand même, tu passes d'un instant zéro à un instant zéro plus un. Le changement de situation est quand même hyper radical.
Tu t'attendais à ça? Est-ce que
non, vraiment, ouais. Encore une fois, je pense que je m'étais pas du tout ou alors pas bien projeté, quoi. Et puis encore une fois, je pense qu'on peut pas comprendre. Après, faut vraiment rassurer tout le monde. C'est évidemment la plus grande joie et la plus grande source de bonheur qui puisse exister. C'est absolument magnifique, et y compris dans les moments délicats. Et puis,
mais c'est en même temps un énorme bouleversement.
Ouais.
Et je pense que évidemment. Ça, en tout cas, moi, on me l'avait jamais dit.
Oui, mais moi non plus. Voilà. Moi non plus. Ou alors peut-être que je me suis beaucoup posé la question après. Ou peut-être que j'ai pas voulu entendre. Je sais pas. Mais en tout cas, je crois qu'en ce qui concerne, tu vois, toutes ces prises de parole actuelles, elles sont aussi basées sur ça, quoi. On n'en parle pas. Est-ce que c'est secret? Est-ce qu'il faut pas le dire parce que ça va faire peur à tout le monde et que du coup on va cesser d'enfanter? Est-ce que l'humanité va cesser de se reproduire? Je pense que quand tu fais un enfant, tu t'appartiens plus tout à fait. Enfin, tu appartiens un peu à la grande communauté humaine. Et je pense qu'il y a des rituels, de langage, en fait. On s'autorise à te poser des questions, on s'autorise à te donner des conseils et on s'autorise aussi à ne te pas dire certaines choses.
Exactement.
Et je pense qu'il y avait des. Tu vois, je pense que quand nous on a beaucoup regardé, par exemple, le spectacle de Florence Foresti là-dessus, parce que tout d'un coup ça nous parlait.
Qui était la première d'ailleurs, ouais, je pense vraiment
France,
à parler
l'une des premières.
D'accouchement et du fameux truc, je vais vous dire toute la vérité, etc. Quoi.
Ouais, vraiment. Vraiment, et du coup, ça nous a parlé, on s'est dit, mais oui, qu'est-ce que c'est bien vu. Et puis, il y a d'autres choses comme ça. Je pense au guide du Papa Parfait de Guy Delisle.
Ouais.
Et puis d'autres choses dans ce goût-là, mais finalement, c'est très récent, quoi. Ce côté, c'est aussi ce côté un peu, pas parent indigne, mais très assumé, qui comporte une part de drôlerie, évidemment, mais aussi une part de vérité sur, disons les choses clairement, c'est pas si facile que ça. C'est pas grave de le dire. Et peut-être que même, au contraire, ça va aider ceux qui traversent ce truc-là. Donc voilà.
Tu crois pas que ce silence, il est dû justement à cet aspect parent indigne? C'est-à-dire que si tu viens dire tout haut à quel point c'est compliqué d'élever des enfants, d'éduquer des enfants aujourd'hui, on va venir te reprocher déjà, un, que c'est pas bien parce qu'en fait tes enfants ils ont rien demandé, et deux, comment ils vont le prendre tes enfants
si je pense qu'il y a une part de jugement, oui bien sûr, et on a peur du jugement. On a peur du jugement, et puis il y a toujours effectivement on est aussi dans une ère de la performance, et donc il faudrait qu'on soit performant un peu tout le temps, un peu partout. Donc, témoigner d'une difficulté avec son enfant, c'est prendre le risque d'être, de subir ce jugement-là. Et en même temps, je pense que comme il y a cette libération de la parole, on se rend compte que tout le monde le vit un peu, et du coup, il y a une bienveillance aussi qui s'installe. Et c'est tant mieux. Après, je pense qu'il y a quand même des vraies différences entre les pères et les mères là-dessus, et les générations de mères et de pères qui nous ont précédés. Et je pense que
comment ça?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Je pense qu'il y a un travail qui a été fait, à mon avis, sur la réalité de la maternité. Je pense qu'il y a quand même un travail petit à petit qui a été fait sur les générations, par les générations précédentes. Je pense que les combats féministes qui ont été menés depuis plusieurs générations maintenant et peut-être même encore avant ont petit à petit permis de libérer la parole, de pouvoir de plus en plus assumer, par exemple, quand on ne désire pas être mère, le mouvement Child Free, même si ça concerne finalement assez peu de femmes, aujourd'hui, on peut en parler, on peut le revendiquer sans être jugé.
Ça grimpe, hein, petit à petit.
Oui, oui, ça grimpe et c'est tant mieux. De toute façon, on se rend bien compte que globalement, la parentalité est réinterrogée, redéfinie, prend de nouvelles formes, évidemment. La PMA, la GPA, etc. Tout ça génère des interrogations et c'est tant mieux. Et je trouve que c'est assez passionnant. Et pour revenir à la différence homme-femme là-dessus, je pense que les hommes, en revanche, ont très peu témoigné jusqu'à présent, encore une fois, de ce que c'était la paternité. Et de toute façon, il y a une culture du silence chez l'homme qui me semble très installée, et pour le coup depuis beaucoup, beaucoup de générations, et qui commence tout juste à s'effriter.
Depuis plusieurs millénaires, je pense.
Très certainement, très certainement. Mais je pense que c'est vraiment... Voilà, c'est un des archétypes de la virilité, le silence. Voilà, de se taire sur ses difficultés et de ne pas en faire écho. Voilà, moins tu parles d'un problème, moins il existe. Je pense que ça a été vraiment la stratégie des hommes depuis effectivement plusieurs siècles. Et c'est petit à petit, tout doucement, je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de boulot en train de s'effriter et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'on a beaucoup de choses à gagner, nous aussi, là-dedans. Voilà, sans du tout faire de comparaison avec les femmes, évidemment, est-ce qu'elles vivent et sur la parentalité, il y a évidemment une différence fondamentale. Mais quand même, on vit quand même quelque chose et c'est bien qu'on en prenne conscience et qu'on en parle, qu'on échange là-dessus et qu'on s'entraide éventuellement, quoi.
T'as des potes pères, toi ?
Ouais, bah bien sûr, de plus en plus.
Et alors, je voulais savoir, est-ce que le fait d'avoir cette liberté de parole, justement, a aidé tes potes à, justement, eux aussi, se lancer dans, peut-être, se livrer, alors qu'ils auraient peut-être pas fait si tu t'étais tu
En fait, je pense que c'est plutôt assez partagé, en fait. Je sais pas si j'ai déclenché, moi, quelque chose, j'aurais pas du tout cette prétention-là, mais j'ai...
Tu disais tout à l'heure que tes potes, ils disaient, putain,
comment
t'en parles, quand même.
Oui, mais c'était plutôt de la part de mecs qui étaient pas encore papa, justement, okay. Tu vois. Alors évidemment, il y a certains pères qui ont pas spécialement envie d'en parler et je respecte ça, il y a pas de souci. Et je sais même pas si c'est des gens qui sont plus sur un ancien modèle, pas du tout. Faut respecter quand les gens ont envie d'en parler, il y a pas de souci. Par contre,
t'es obligé de parler.
Bah voilà, faut pas non plus tomber dans un excès ou une injonction inverse. Mais en revanche, j'ai quand même pas mal de potes qui sont devenus pères en plus ou moins en même temps que moi. Avec qui c'est très facile d'en parler et avec lesquels on échange sur nos interrogations fondamentales, nos angoisses, nos joies, etc. Et j'ai un de mes très bons amis qui me disait on est sans doute la première génération des papas à quatre pattes, ce que j'ai trouvé assez joli et en manière de dire qu'on joue avec nos enfants, okay. On est à quatre pattes avec eux en train de jouer. Alors c'est pas, alors après c'est peut-être une figure de une image de soumission, j'en sais rien. mais quelque part oui, on se met à hauteur de nos enfants et on est peut-être la première génération à le faire, enfin peut-être la deuxième, j'en sais rien. Je vais pas non plus faire de, voilà, je suis pas un expert de la paternité non plus, mais en tout cas moi j'entends cette parole-là beaucoup auprès de mes potes, ouais. Ouais, franchement. Après, je sais pas, il y a peut-être des billets de milieu, très certainement, hein, je me leurre pas
oui,
là-dessus.
Je pense que t'es parisien, que t'es dans un milieu sans doute...
Très certainement, très certainement.
Mais en tout cas, ça donne une tendance
oui.
à venir.
Oui, ça existe, mmh. ça existe de plus en plus. Et tu vois, quand j'ai sorti le bouquin, j'étais très étonné. Moi, quand je fais le bouquin, à aucun moment je conscientise tout ça. Pas du tout.
Ah ouais ?
Ah ouais, oui, pas du tout.
C'est vrai. Mais t'avais pas de retour de gens ? Justement, j'allais t'en parler, justement.
Ben, moi, je le fais vraiment... Écrire ces chroniques, c'est vraiment de la déconne. Hein. Faudra vraiment que, que les gens lisent, parce que comme ça, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est vraiment... Quand tu donnes son t-shirt à col roulé à ton enfant et que sa tête reste bloquée et qu'il se met à courir dans le salon dans tous les sens et à finir par se manger une porte, enfin voilà, il y a rien, je théorise absolument pas
oui,
sur
oui,
le
comprends.
Rôle du père oui. en général, tu vois, et je conscientise pas du tout.
Non, t'es plutôt sur des moments de vie en fait.
Ouais, je suis sur des purs moments de vie sur lesquels j'ai envie de déconner, voilà, c'est tout. Et à aucun moment je me dis qu'il y a un discours là-dedans. Et finalement, c'est quand l'éditeur vient me voir déjà, il me propose de faire le livre. C'est lui en fait qui me dit mais ça raconte quelque chose de l'époque. Et moi à aucun moment je me suis dit ça avant et je pense que si on m'avait dit avant d'ailleurs que j'écrirais un bouquin sur la daronnade et que je serais interviewé sur ce sujet-là, je pense que j'y aurais pas forcément cru quoi. Et en fait depuis que le bouquin est sorti, on m'interroge beaucoup là-dessus, beaucoup sur ce que c'est qu'être père. Alors que je pensais qu'on allait prendre ça juste pour une grande blague.
Tu disais justement que tu étais un peu étonné d'avoir dans pas mal d'interviews des questions très politiques justement et que tu t'y attendais pas, mais ça prouve bien que ça devient un sujet de société, non, c'est plutôt cool.
Oui, oui, carrément. Oui, carrément. Mais ce que j'avais pas estimé, parce que je pense que moi j'étais pas tellement dans ce type de littérature là ou de... Enfin voilà, en fait je m'y intéresse plutôt maintenant.
Ouais.
Et quand je commence les chroniques, pas du tout. Et je pense même que ça m'inquiétait un peu parce que je pense que t'as un premier réflexe qui est de te dire je suis pas qu'un père, je suis pas devenu qu'un père, donc je vais pas commencer à devenir un spécialiste des poussettes ou des... Enfin voilà, j'avais un peu tendance à fuir ça, je pense.
Ouais.
Mis à part dans les discussions avec mes amis.
C'est un truc qui t'emmerde qu'on te prenne juste cette facette-là de ta personnalité.
Pas maintenant, plus maintenant.
Plus maintenant.
Non, non, non. Bah non, elle a 6 ans, j'assume à fond, il y a pas de problème. Et puis voilà, ce serait ridicule. Je sors un bouquin là-dessus. Ouais. Donc, quand j'ai accepté le bouquin, j'ai trouvé ça super cool qu'on me propose. J'avais dû écrire que 3 ou 4 chroniques, tu vois. Donc ça me paraissait hyper tôt. Donc et j'ai été honnêtement flatté qu'on me le propose. Et je me suis jeté là-dedans avec beaucoup de plaisir. Et par contre, effectivement, je me suis dit, tu vas sortir un livre là-dessus. Je me suis posé la question un quart de seconde. Et puis non, tout va bien. C'est moi, je le fais, personne m'a forcé. Et c'est ce que je suis un daron, il n'y a pas de problème. Mais je pense que tout début, oui, c'était un peu... c'est pareil, je pense qu'on a tous partagé ça. D'ailleurs, les mecs comme les nanas, quand t'es jeune parent... Alors certains se projettent à fond là-dedans et ça devient une identité, une part très importante de leur identité. Et pareil, aucun jugement,
oui.
Pas de souci. Et puis d'autres ont besoin de se dire bon, je suis encore un peu,
je suis un être humain
chose.
À part.
Ouais, voilà, exactement. Et de trouver des petites fenêtres d'évasion pour se retrouver et voilà. Et donc moi, dans un premier temps, j'avais surtout envie qu'on ne me renvoie pas à ça. Et je pense que aussi ces chroniques, c'était un peu ça, c'était de se dire prendre du recul, c'était aussi se dire ça reste cool, je peux continuer à déconner là-dessus et voilà, c'était un peu aussi rester dans cette identité là qui est quand même un peu la mienne au départ et que je voulais pas quitter.
T'as reçu des messages de Anini, parents indignes, etc. ou pas ?
Non, pas du tout.
Ah ouais.
Ouais, un peu au tout début sur le site de Néon, c'est vrai. Il y a une chronique où j'explique, c'est quand tu rentres à... Quand tu dois t'occuper de ton enfant et que t'es bourré. Qui est une chronique qui a très bien marché, mais qui a été diversement appréciée par les lecteurs. Et je raconte que je suis dans un bar à 1h du matin. Pour le coup, j'ai eu mon bon de sortie. Ce qu'on fait régulièrement, évidemment, avec ma compagne, c'est essentiel. Mais bon, je suis dans un bar avec des amis. Voilà, je suis dans un bar un peu interlope avec des flaques de bière par terre, des cahuètes, etc. Enfin, tout ce qui va bien dans un bar, tout ce qu'on aime bien dans un bar. Et je mets la main dans ma poche par inadvertance et je tombe sur une tétine. Voilà. Avec marqué I love papa ou un truc comme ça dessus. Ça me fait évidemment redescendre en piqué d'un coup. Je me dis, oh là là, mon Dieu, mes responsabilités. Vite, rentrons à la maison. Et je me rate, je me trompe de porte. Et puis je rentre à la maison, il est 3h du matin, l'enfant dort fort heureusement. Moi, je me mets dans le canapé pour décuver tranquillement en me disant que j'ai jusqu'au lever du jour, enfin ça doit être 6h à l'époque quand ils sont aussi jeunes que ça, parce qu'elle devait avoir pour le coup, je sais pas, 6 mois, moins d'un an. Et en fait, elle se réveille et là commence un battle entre ton rôle de parent et ton niveau d'alcoolémie qui évidemment te permet pas du tout d'assurer correctement ta fonction de papa. Mais je pense que c'est un truc que beaucoup de parents ont aussi vécu et finalement voilà, pas de drame, tout s'est bien passé, on a survécu, puis surtout c'est arrivé plus d'une fois, faut être honnête. Et après tu découvres des vertus quand même assez intéressantes de l'alcool, c'est que t'as un peu le même QI que ton enfant à ce moment-là. Vous pouvez communiquer en fait beaucoup mieux, plus sereinement. Donc on est allé vider le frigo ensemble en mangeant des cochonneries et finalement la nuit s'est très bien terminée. Donc évidemment, faut pas être à 5 degrés d'alcool dans le sang. Faut avoir une petite alcoolémie, mais de toute façon, en général, moi j'ai appris à gérer ça très bien aussi après l'arrivée de mon enfant. Et bref, on a publié cette chronique et il y a des gens qui ont sérieusement envoyé des messages à Néon en demandant si c'était du second degré ou si c'était des vrais conseils, tu vois.
Ah ouais.
Donc ouais, il y a eu un peu ça, mais en réalité très très peu. Très très peu. Tout le monde comprend bien le second degré qu'il y a dans toutes ces histoires. Je décris jamais rien de grave, tout se passe bien avec ma fille. J'ai raté des biberons, j'ai mal géré des couches explosées, il s'est passé des choses comme ça, mais rien de plus grave, on s'en sort très bien, et c'est ce que le livre raconte d'ailleurs. Dans les chroniques, elle grandit petit à petit. Ouais. Donc voilà, le langage arrive, les questions arrivent et on voit bien que tout ça se passe plutôt pas trop mal, quoi. Donc non, j'ai pas eu du tout ou très peu de réactions comme ça.
Si pas l'alcool et l'enfant sont peu compatibles.
Exactement, l'alcool et l'enfant sont très peu compatibles. Cela dit, il peut arriver dans la vie de jeunes parents d'être dans un état, ou alors en gueule de bois, hein, c'est un peu pareil,
ouais.
où tu dois quand même assurer ta fonction parentale. Et là, c'est un petit challenge. Mais bon, voilà.
Mais c'est intéressant aussi parce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'oublier soi-même et de pouvoir avoir des fenêtres de décompression à un moment donné.
La vie continue, quoi. La vie continue quand même. Et voilà, c'est ce qu'on. On reste un peu ce qu'on est. Et évidemment qu'il y a toute une phase où tu évites les bars et où tu sors quasiment pas, bien sûr. Et puis petit à petit, ça revient dans ton existence et c'est tant mieux. Et voilà, et tu peux être confronté à ce genre de situation. Donc évidemment, mon conseil, c'est de pas avoir bu 3 litres de vodka avant de rentrer à la maison pour être quand même à peu près au clair et savoir que peut-être tu vas te retrouver en situation de devoir gérer ton enfant. Donc évidemment, avec modération, tout ça, on le répète. Mais voilà, quand ça arrive, ça peut être aussi assez marrant à raconter.
J'ai une question que j'aime bien poser aux papas qui ont eu des filles ou une fille. Ça te fait quoi, toi, d'avoir une fille plutôt qu'un garçon ?
Je pense en réalité que ça change pas grand-chose.
Ou ça t'a fait quoi, une fois que t'as...
Alors ça, par contre, c'est la vraie question, parce que je pense que comme beaucoup de mecs un peu débiles, ça m'a complètement fait flipper. Et je pense que comme beaucoup de mecs un peu débiles, je m'étais dit que j'aurais un fils, je pense, quelque part.
Ah ouais ?
Inconsciemment, je sais pas.
Tu te projetais en tout cas papa d'un fils ?
Ben, je pense plus. Que papa d'une petite fille et donc quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu un moment de waouh, comment je vais faire, et en fait je pense que c'est pas très différent, voilà. Et aujourd'hui je suis un papa de petite fille et c'est ce qui me définit, et c'est juste c'est une joie immense. Et j'ai pas de point de comparaison, j'ai pas de garçon, j'ai qu'un seul enfant.
Qu'est-ce qui faisait que tu te projetais plus en tant que papa d'un fils ?
Exactement les mêmes réflexes que ceux dont on parle depuis le début de la réflexion, de la discussion, en fait, je pense. Je pense des réflexes de préservation et des inquiétudes, des inquiétudes face à un univers que je connais moins. Et je pense qu'aujourd'hui, mes inquiétudes de papa d'une petite fille ne concerne pas du tout ma gestion de l'éducation d'une petite fille, mais plutôt la gestion de la société sur la question de l'égalité femmes-hommes, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, je m'inquiète plus du monde dans lequel elle va grandir et évoluer, plutôt que de savoir si j'arrive à bien l'éduquer. C'est plus du tout une question. Enfin voilà, c'est un enfant, point. Et je pense que honnêtement, je crois pas qu'il y ait une méthode spécifique aux petites filles ou aux petits garçons, pas du tout. Il y a évidemment des spécificités, ça paraît clair. Mais après, il y a plein de choses à gommer aussi, des choses culturelles, évidemment, qu'on les connaît bien maintenant. Donc, que j'essaye, moi, de compenser, bien sûr.
C'est quoi, par exemple?
Bon, c'est tous les stéréotypes de genre auxquels on essaye d'échapper, quoi. Finalement, elle comme moi. Mmh. Voilà, on est dans le même bateau et j'ai conscience de ça. Je pense que tous les parents autour de nous, autour de moi, ont conscience de ça. Donc, évidemment, là aussi, il y a des évidemment, malheureusement, t'es très vite rattrapé par les histoires de princesses qui arrivent très vite dans la vie d'une petite fille et dans la cour de récré ou dans les livres qui sont là, disponibles tout de suite, ou dans les Disney, mais qui de toute façon vont atteindre ton enfant, et c'est normal, oui. Il faut l'accepter aussi, ça. Mais il faut varier, voilà, faut varier les plaisirs de lecture, les références culturelles, il faut amener des, enfin il y a plein de choses actuellement qui se passent dans cet univers-là, je pense que tu le sais très bien et vous devez vous en faire l'écho. Voilà, des auteurs féministes, des gens engagés, même des mecs évidemment, des jeux de société où on déconstruit un peu tout ça. Voilà, lui donner à lire et à entendre et à voir des héroïnes puissantes. D'ailleurs, je sors un bouquin, moi, en avril, un deuxième, chez Prisma, c'est 12 portraits de femmes qui ont défié leurs époques. Donc voilà, je dois être dans une tonalité un peu comme ça tout de même, c'est sûr. Et donc, je lui raconte un peu les histoires de ces femmes. Donc là, récemment, on a parlé ensemble d'Emily Davison, qui est une suffragette anglaise qui est morte en... Bon, je fais une petite digression, mais
digresse.
Voilà, qui est morte en essayant d'accrocher l'écharpe des suffragettes sur le cheval royal pendant une course en Angleterre à laquelle assistait le roi d'Angleterre, George V. Voilà, bref, j'étais à fond dans cette histoire-là récemment, donc je la raconte. Et puis tout le mouvement des suffragettes britanniques est complètement fou. Enfin, voilà, c'était une révolte d'une puissance. Assez dingue, qui remet vraiment en perspective aussi ce qu'on vit aujourd'hui et le combat féministe dans lequel on est aujourd'hui. Donc voilà, c'est peut-être ça que ça change. Mais je pense que ce serait exactement la même chose si j'avais un petit garçon aujourd'hui, quoi. Voilà, évidemment, j'essaierais de déconstruire aussi certaines choses sans être complètement... voilà, sans ne parler que de ça. Faut pas non plus se laisser totalement envahir. Mais évidemment que ça fait partie de ma réflexion dans l'éducation que je donne à ma fille.
Oui, tu penses que si t'avais eu un mec, t'aurais eu cette projection-là aussi en retour de la part de la société.
Oui.
Ok.
Oui, je pense. Je pense.
Oui. Je pense que c'est plus dur pour les parents d'un garçon de se rendre compte de ce que les garçons sont en train de prendre dans la gueule, parce que l'air de rien, on doit leur enlever des trucs aux petits garçons,
oui, bien
alors
sûr.
Qu'en fait tu files des trucs aux petites filles du style de la confiance en elles, alors qu'aux garçons, on doit leur enlever. Tout l'aspect toxique, comme on appelle ça aujourd'hui, de la masculinité, c'est-à-dire je vais taper sur tout ce qui se passe.
Ouais, peut-être. Honnêtement, c'est une bonne question parce que je me suis pas projeté, ouais, là-dedans. C'est pas quelque chose que je vis. C'est vrai que j'essaye d'apporter des choses supplémentaires à ma fille.
Moi, j'ai des potes qui ont des fils, en fait, si tu veux, et j'ai l'impression que c'est pas des questions qui sont posées, alors que bon, j'ai deux filles, moi, c'est un truc qui m'est sauté à la gueule en pleine tête d'entrée, quoi, tu vois. Alors,
ben,
peut-être. Je sais pas.
Bah, je pense que encore une fois, j'ai sans doute un biais, mais moi, en étant, tu vois, à néon et en travaillant sur ces questions-là très régulièrement, je pense que quand même, voilà, je suis très, très, très éveillé là-dessus, et ça doit être aussi un challenge hyper intéressant d'éduquer un fils en s'interrogeant là-dessus et en regardant, voilà, ce qui existe et. Enfin, ce qu'il produit, ce que l'école produit sur lui, ce que la culture produit sur lui, ce qui est peut-être aussi inhérent à ce qu'il est dès le départ. J'en sais rien, il y a plein de questions. De toute façon, on sait bien que ça, qu'il y a des choses qui vont prendre plusieurs générations parce qu'il y a une part d'héritage presque. L'héritage culturel, c'est aussi un héritage génétique, je pense. Ouais. Hein, voilà, il y a des choses qui vont changer petit à petit, génération après génération. Donc, y compris dans des réflexes de comportementaux qu'on voit apparaître très très jeune en réalité. C'est des choses que j'ai observées chez ma fille. Mais oui, c'est vrai. En réalité, je me serais sans doute posé les questions de manière un peu différente, très probablement. Mais tu fais bien de me poser la question parce que oui, c'est pas ma réalité et je me la suis pas tellement posée en vrai. C'est vrai.
Non, mais c'est une question. Enfin, c'est une question hypothétique, hein, tu vois. Mais c'est vrai que je vois chez les mecs. Et je sais pas si t'as vu récemment, il y a Walidia. Je mettrai un lien dans les notes du podcast qui est sorti sur On n'est pas couché en se disant en fait où il venait. Un peu critiqué de façon un peu maladroite le mouvement MeToo et en se disant qu'en fait depuis qu'il a une fille il se rend compte à quel point les filles en prennent plein la gueule et qu'en fait avant il en avait pas pris conscience si tu veux et je trouve qu'il y a un vrai déclic chez les mecs comme ça de
bah, c'est possible
ce qui est un peu étonnant parce que tu te dis mais t'as pas eu cette empathie là avec ta compagne tu vois
ouais moi j'ai un peu de mal avec ce discours là parce que il faut pas attendre d'avoir une fille pour être éveillé à ses interrogations
ça peut aider.
Non mais je pense que les mecs ont quand même un peu de retard et un peu de mal à comprendre et je pense que pour beaucoup ça vient peut-être comme ça et c'est tant mieux effectivement tout comme la question féministe arrive plus brutalement chez certaines femmes quand elles deviennent maman. On a fait un papier là-dessus dans Néon il y a pas si longtemps parce qu'évidemment les inégalités explosent à ce moment-là. Donc oui, c'est un moment charnière. Après, il faudrait pas attendre ça pour être bien conscient de ces réalités-là. Moi, je pense que j'étais un peu, grâce à mon métier, effectivement,
sensibilisé
avant, ce qui n'a pas empêché ce que je te disais avant, c'est-à-dire d'avoir une inquiétude supplémentaire quand j'ai appris que j'allais être papa d'une petite fille, ce qui prouve que inconsciemment, je portais encore des choses et des réflexes. Bah. Voilà, mais c'est normal, je pense que ça doit se déconstruire.
Ça prend du temps.
Ça prend du temps, bien sûr que ça prend du temps.
Comment ça se passe avec ta fille aujourd'hui ? Donc il y a 6 ans, c'est ça ?
Elle a 6 ans, ça se passe merveilleusement. Merveilleusement. Elle est incroyable. Mais je pense que bon, voilà, c'est pas très original de dire ça. Mais elle est très originale, elle est très vive, elle pose des tas de questions, on discute beaucoup ensemble, y compris des suffragettes britanniques par exemple. Donc voilà, il y a des sujets de... L'égalité homme-femme commence à arriver dans nos conversations, elle commence à... Elle aussi à interroger des choses là-dessus. Sur la surprésence des hommes dans certaines sur certaines choses, elle commence à pointer du doigt certains trucs, donc c'est hyper intéressant. Bon, après on n'a pas que des discussions politiques, on a aussi une grande phase pipi caca qui a été hyper drôle d'ailleurs quand elle a appris qu'il allait avoir un livre d'Adi Gaga, elle m'a suggéré très judicieusement avec son humour qui la caractérise, pour papa, pourquoi tu l'as pas appelé Daddy Caca? Daddy Caca, c'est beaucoup plus drôle, ça va super bien marcher.
Elle a raison.
Elle a tout à fait raison. Je lui ai dit que j'en parlerai à mon éditeur qui malheureusement n'a pas validé cette proposition de titre et c'est bien dommage.
La pensée normative. Hein.
Bah voilà. Et du coup on est resté sur Daddy Gaga. Voilà. Mais du coup on a aussi beaucoup échangé sur le bouquin et d'ailleurs je l'ai fait participer à une chronique. Je lui ai dit viens tu vas écrire l'une des chroniques, ça va être drôle. Qu'est-ce que tu veux raconter? Et donc elle a raconté des aventures avec son père où c'est en général son père qui a pas très bien réussi des trucs. Comme quoi elle a bien compris la tonalité du livre. Donc elle raconte une fois où j'ai raté un train, où j'étais avec elle, on s'était levé aux aurores, très en avance, et on est arrivé à Gare de Lyon, j'avais genre une heure d'avance sur le train, et ça m'a pas empêché de rater le départ du train, et de devenir complètement fou devant les contrôleurs, parce que le train était encore en gare, donc elle a voulu raconter ça, et j'ai dit, bon écoute, voilà, quitte à m'humilier définitivement, il n'y a pas de souci, allons-y. Et évidemment c'est sa maman d'ailleurs qui a arrangé la situation, ce qu'elle s'autorise aussi à raconter dans la chronique. Ouais. Donc voilà, on échange beaucoup et on se marre bien.
Si t'avais, une question que je pose à tous mes invités, si ta fille écoute ce podcast, dans 10 piges, faudrait dire qu'elle a 16 ans, elle est au...
Ben écoute...
Qu'est-ce que tu me dirais ?
C'est méta comme question là, tu m'envoies loin là.
C'est un peu le concept de l'exercice.
Oui, oui. Oui, on a des questions comme ça dans ce genre... À Néon aussi, qui mettent les gens dans l'embarras, et je le comprends mieux maintenant.
Et paf, miroir.
Ouais. J'espère que ça la fera toujours rire, Daddy Gaga, déjà, et qu'elle le portera pas comme un fardeau, et si c'est le cas, bah, je m'en excuse. J'espère que ça va pas lui coûter une psychanalyse ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, je pense pas. Je pense que tout ça est très, très, très inoffensif. Et. Oh, Mais je sais pas, tu m'envoies là dans des... Je sais pas, on vit vraiment au jour le jour quand on est parents. Et on a toujours envie un peu de savoir comment la suite va se dérouler et d'avoir une petite machine à avancer dans le temps. Et en même temps, c'est aussi une question qu'on refuse un peu de se poser parce que c'est toute sa liberté à elle d'être exactement ce qu'elle a envie d'être. Et j'espère à 16 ans juste qu'elle sera épanouie et bien dans sa peau et que la société aura entre-temps suffisamment évolué pour qu'elle ait le plus de choix possible. C'est tout. Et voilà. Donc, si elle écoute ça à 16 ans, est-ce que les podcasts existeront encore ? Est-ce que le coronavirus aura tout emporté sur son passage ? Est-ce que la collapsologie aura eu raison de nos dernières volontés ? Je ne sais pas. Si le monde existe encore,
putain.
Écoute, j'espère... Et ben, j'espère que tout va bien pour toi. C'est pas du tout déprimant.
Ça importerait un peu, mais en fait, en même temps,
tu vois, faut pas m'envoyer dans des...
Non, mais je pense que
si tu m'envoies dans mon cerveau, moi, tu vois, bah ça donne des trucs comme ça.
Mais je pense que c'est assez révélateur de l'époque. C'est-à-dire aussi, c'est quoi le monde ? Parce que je pense que mes darons, alors
le monde qu'on va laisser à nos enfants.
T'as quel âge ? T'as
40 ans. J'ai fêté mes 40 ans.
Donc nos darons, à mon avis, ils se posaient pas cette question-là de putain, le monde va exploser. Parce que quand on avait 16 ans, c'était quoi ? C'était l'an 2000. Peut-être un peu avant, quoi, tu vois. Ils avaient un truc de, ok, en fait, l'avenir va être cool. Et je trouve que c'est intéressant et que tu pointes ça, parce que pour moi, c'est un vrai.
Bah,
vraie
je pense que c'est une question
oui, sociétale actuelle.
Actuellement,
quoi.
Oui. Bah, ouais.
J'espère que tu seras pas morte.
Non, mais j'espère que tu auras survécu à l'apocalypse voilà. Zombie qui nous attend. Voilà, et que je t'aurais donné toutes les armes pour survivre.
Voilà, c'est ça aussi, c'est.
Dans ce monde-là. Non, mais en vrai, je rigole avec ça, alors que moi, je suis pas très, très là-dedans. Non, mais je pense que ça touche beaucoup de gens. D'ailleurs, on a fait aussi un papier sur Néon.
Bah, Néon, t'as un magazine sociétal, donc forcément, tu.
Ouais, il y a une inquiétude globale. Après, moi, en réalité, oui, je discutais avec mon beau-père il y a pas si longtemps, qui me disait, nous, on avait, les choses étaient sans doute pas plus faciles pour nous à notre époque, mais on avait la sensation que, la génération suivante vivrait mieux que la nôtre. Et on avait l'impression que c'était quelque chose qui existait depuis déjà plusieurs générations. Donc je pense qu'on est un peu en déficit d'espoir aujourd'hui, mais en même temps, il y a une espèce d'hypersensibilité quand même qui est quand même très liée à ce monde qui parle et se parle beaucoup et qui bruise de mille et une interrogations, de mille et une revendications, de mille et une souffrances, et c'est sans doute très bien. On est un monde qui a conscience de sa lui-même et de sa multitude, avec des grands espoirs politiques qui se sont effondrés. Et du coup, je pense qu'il y a quand même très certainement une surinterprétation de tout ça. Donc, en réalité, moi, je suis plutôt optimiste parce qu'en plus, je vois des choses bouger et c'est tant mieux. Donc, j'ai plutôt, en plus, en étant très au contact des enfin voilà, je vois quand même le monde bouger, le monde changer, et je pense qu'on en est aujourd'hui aux âges qui sont les nôtres, acteurs et aussi un peu spectateurs de voir ce qui est en train de se produire. Et je reste en fait très confiant parce que je pense que justement la génération de ma fille, je pense qu'ils auront les armes pour changer les choses. Alors c'est peut-être un peu béat, mais moi je trouve que l'époque est inquiétante et en même temps elle est assez exaltante parce que elle est en train de oui, c'est une époque de changement et c'est quand même très vivifiant. Et j'ai l'impression que, pour reprendre ce qui se passait nous quand on avait 20 ans, j'avais l'impression que c'était une époque beaucoup plus stagnante en réalité. Alors peut-être plus sécurisante et évidemment, mais j'ai eu l'impression moi de pas vivre des grands emballements politiques à 20 ans, et je vois aujourd'hui des choses se produire qui me semblent hyper riches, porteuses très certainement d'excès, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, de choses qui sont en train de changer la donne. Et tu vois, une très belle expression comme OK Boomer, voilà, qui a évidemment elle aussi ses excès, mais renseigne bien sur le fait que il y a quelque chose qui se produit que évidemment les plus anciens vont pas comprendre. Mais alors, qui...
Si vous l'avez pas, OK Boomer, c'est pareil, je vous mets un lien dans les notes du podcast pour vous expliquer
j'ai
un petit peu.
Que tout le monde sait maintenant, mais
pour vous expliquer un peu ce que c'est, mais en gros, c'est une députée, c'est en Australie ou Néo-Zélande, je sais plus où.
Quelque chose comme ça, oui.
Qui a claqué dans le beignet d'une sorte de vieux con, OK Boomer, en gros, ça veut dire OK, mec qui vient de la génération du baby boom, quoi. Tout
simplement. Oui, c'est ça. de ce vieux monde qui a du mal à comprendre
que le monde a changé.
Que le monde a changé et qu'il y a des urgences qu'il faut maintenant, auxquelles il faut maintenant se confronter.
J'ai une autre question pour toi, c'est de ce fait-là, comment tu fais pour préparer, ou en tout cas, est-ce que tu as pensé à comment tu fais pour préparer tes filles à ce monde qui est en train de changer, au-delà de l'aspect juste intellectuel, et notamment tu disais les armes, est-ce que... Moi j'ai une question...
Non, mais je rigolais, hein, c'était vraiment une blague. Hein.
Non mais en fait j'ai une vraie question moi, qui se pose dans ma tête, vraiment, c'est ok, est-ce que plutôt que de partir en vacances à la cool, au bord de la piscine, etc. avec mes filles, tu on n'irait pas faire des camps survivalistes?
Un camp de survie? Ah non, moi je suis pas du tout là-dedans, non.
Bah, tu vois, comment on fait pour les préparer?
Moi, je parle juste d'une préparation intellectuelle, oui, okay. Évidemment. Non, je suis pas du tout dans...
Ah bah, si, je pense qu'il y a... si le monde s'effondre, tu vois, il y a un vrai truc.
Oui, alors moi, pour le coup...
Tu penses pas?
Je suis désolé. Hein, j'ai l'impression que ça devient un peu choquant de dire que je ne pense pas que le monde va s'effondrer tout de suite, maintenant.
Je suis assez d'accord avec toi. Hein.
Je pense qu'il y a une trajectoire qui est sans doute pas très très bonne, hein, faut pas se le cacher, mais je suis pas du tout convaincu que le monde va s'effondrer demain. Et puis je pense qu'en plus il y a des espèces aujourd'hui de gourous de la collapsologie qui sont presque encore plus inquiétants et qui manipulent et qui sont qui ils m'angoissent eux presque encore plus que la situation actuelle. Même si la situation évidemment a bien des égards au moins préoccupante. Mais je pense que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire armer intellectuellement surtout. Mm. Et on le voit.
Et pas les mettre à la carabine, quoi.
Non, pas du tout. Non. Je suis pas sûr que d'ailleurs ça aide à quoi que ce soit. Après, je pense qu'il y a très certainement des mutations très profondes dans la manière dont on vit, dont on consomme, qui sont en train d'être enclenchées. Nous, on le vivra, mais bon. Sans doute à moitié, sans doute que nos enfants le vivront plus intensément. Je pense réinvestir évidemment la nature, les campagnes, essayer de comprendre ce qu'on consomme, ce qu'on mange, et avoir une vie peut-être un peu moins stressante, un peu moins tournée sur le travail, sur la performance, des choses comme ça. C'est plus de cet ordre-là que. Et donc du coup, je me projette un peu plus loin dans le temps. Et donc non, je l'emmène pas du tout dans des camps de survivalistes ou apprendre à vivre 6 mois dans un bunker, on n'en est pas encore là, non, pas du tout. Et vraiment, j'ai dit ça vraiment pour déconner. Hein. Moi, j'y pense pas du tout tous les matins à la fin du monde. Et voilà.
Ah, mais je pense que c'est une tendance plus profonde que.
Bah, sans doute que ça impacte un peu nos éducations quand même, très certainement. La question écolo. Mais je vois de toute façon qu'à l'école, il y a des choses qui sont déjà très très enclenchées. Et évidemment, on peut se répéter que ça n'avance pas. Et oui, ça n'avance pas au niveau politique, ça n'avance pas. Il y a plein de choses qui n'avancent pas assez rapidement, y compris sur la question de l'égalité homme-femme, bien sûr. Le Grenelle sur les violences conjugales, c'est vraiment une farce par rapport à l'urgence de cette situation-là. Ouais. Et donc, il y a plein de choses qui sont déprimantes comme ça au niveau politique. Mais quand on est justement au contact de ce qui se fait auprès... cet engagement... De la jeunesse, et même pas que de la jeunesse, c'est-à-dire je pense aujourd'hui, je vais dire des 15-45 ans, parce que je me mets un peu dans ce panier-là du coup, il y a des choses quand même folles, fortes, inspirantes, et qui sont en train, je crois, vraiment de changer les choses en profondeur, qu'on n'arrive pas encore à estimer exactement à quel point ça va bouleverser je le crois, moi, l'humanité dans son ensemble, mais je crois que c'est en train de se produire. On le voit pas encore tout à fait, et effectivement, les plus anciens ont du mal à le comprendre, mais je crois que c'est en train de changer. Après, encore une fois, il y aura des excès, il y aura sans doute des choses qu'il faudra bien, bien réfléchir, mais on a besoin de changement, et je crois qu'il est en train de se produire.
Bah écoute, si jamais ta fille écoute ça dans 10 piges, elle pourra lui dire, t'avais complètement tort.
Tu me mets une pression folle, je sais plus quoi dire.
En tout cas, merci beaucoup.
Merci à toi, c'était super.
Si vous voulez en savoir plus sur Daddy Gaga, je vais vous mettre tous les liens pour commander sur internet, etc. etc. En tout cas, merci à toi, et puis je mettrai aussi un lien vers Néon, et vers tes chroniques.
Je te remercie.
Merci, salut.
Merci Fabrice.
Et voilà, c'est terminé, merci beaucoup d'avoir écouté jusque là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur FabFlorent, FabFlorent, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, histoire avec un S,
Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S, tout attaché, @gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.